Musique et moi, une émission en partenariat avec le magazine Grazia.
Musique et moi.
Marianne James.
Elsa Boublil.
On n'est pas à l'abri d'un succès.
C'est sur cet air composé par Duke Ellington, Satin Doll, poupée de satin, et ici interprétée par Michel Petrucciani et son père Tony, que nous vous accueillons Marianne James, chanteuse, comédienne, humoriste. Vous êtes actuellement à l'affiche d'un spectacle pour enfants, mais pour les grands également, Tati Jambon, un spectacle musical que vous avez coécrit avec Valérie Bourg. Une Tati à votre image, Marianne James, anticonformiste et haute en couleur, comme d'ailleurs aujourd'hui, puisque vous avez un gilet jaune. Personnage qui se faufile dans des rôles hauts en couleur, de l'Ultima Recital à la Nouvelle Star, en passant par Prodige, comme d'ailleurs les doublages de Madagascar, Happy Feet ou Harry Potter. Votre voix vous porte, tout comme votre bonne étoile. Bonjour Marianne James.
Bonjour.
Et alors donc, effectivement, Michel et Tony Petrucciani pour vous accueillir, parce que Tony Petrucciani a joué son rôle dans votre vie.
Eh bien, j'ai 11 ans, je vais rentrer en 6e au lycée Alain Borne de Montélimar, et mes parents me disent, tu veux faire quoi comme instrument? Il y avait une vieille guitare vraiment, mais pourrie, qui traînait à la maison. Et ils voyaient bien que toute seule, j'y remettais mes doigts, mais elle était inconfortable, c'était pas fait pour mes petites mains. On est allé voir ce voisin, monsieur Petrucciani, qui vendait des instruments de musique, qui donnait des cours, soi-disant, de guitare. Et au premier cours, mon père Maurice et donc Tony se rencontrent, ils se connaissaient puisqu'ils étaient voisins de quelques mètres sur la place du marché. Au premier cours, la maman Petrucciani descend ce petit garçon, mais tout petit. Quand je dis tout petit, il avait 11 ans comme moi. Il avait cette maladie très grave qui faisait qu'il n'avait pratiquement pas de corps, qu'il n'était qu'une tête gigantesque et des mains gigantesques. Elle le met au piano, il joue Et Tony regarde mon père et moi et dit, ben, si Marianne s'accroche, peut-être qu'un jour elle jouera comme ça. Et voilà, ça a été mon quotidien. Rémus et Romulus ont tété la louve. Moi, j'ai tété tout de suite le jazz dans cette famille. Quelle était la probabilité, moi, jeune Montilienne, en 1973, que je tombe dans cette famille? Parce que j'ai tété le jazz tout de suite, quoi. Mais le vrai jazz.
Ah oui, d'ailleurs, là, vous étiez émue, hein, en les écoutant. Vous les avez reconnus tout de suite.
Je les ai reconnus tout de suite. Parce que j'adore la patte de velours du papa derrière qui laisse l'entière liberté au fiston. Et vous avez entendu comme Michel vient jouer sur les notes qui ne sonnent plus.
Ouais, les notes aiguës, c'est un do aigu, il me semble, hein, mais.
C'est impressionnant. Il va vraiment sur les dernières notes. Ouais. Que pratiquement personne n'utilise, qui sont à droite toutes du clavier, ouais. Parce qu'il avait un champ de liberté musicale tel qu'il faisait même des percussions sur son piano.
On n'est pas à l'abri d'un succès, Marianne James, c'est votre devise?
Je l'ai dit une fois par hasard, ça a bien fait rire tout le monde. Je dis, vous savez, on n'est pas à l'abri d'un succès. Ouais. Hein. Et ça porte tous mes projets. Je dis toujours, on n'est pas à l'abri d'un succès. Parfois, ça ne fonctionne pas, bien sûr. Mais souvent, ça marche.
Vous êtes l'invité de Musique et Moi ce matin jusqu'à 12h30 pour dresser votre portrait à travers vos goûts musicaux. Et on va voir qu'ils sont nombreux.
Thank you.
Casta Diva de Norma de Bellini, interprétée par Maria Callas et l'orchestre et le chœur de l'Opéra Royal de Covent Garden sous direction de Vittorio Gui. Marianne James, c'est pour démarrer cette émission avec vous. Et vous avez été d'un silence étourdissant.
ça reste le plus grand Everest artistique pour moi. Avant Matisse, avant Picasso, avant La Forêt Noire de mon papa, qui était pâtissier, avant beaucoup de baisers, probablement, de mes amants, avant ma propre logorée, mes fusions et mes impros sur scène, avant tout ce que je peux connaître de mes outrances ou de mes silences. Je ne peux que lever l'oreille vers cette diva, donc c'est une déesse, et en plus c'est exactement ce qu'elle interprète là. Je suis très émue d'entendre cet enregistrement bien abîmé, où on entend les pages tournées par le chef. Je sais exactement où étaient posés les micros, je l'entends,
parce
que j'ai fait beaucoup d'études d'acoustique, donc là j'entends. Vous imaginez si on avait là sa voix, ce jour-là, à Covent Garden, sans ce brouillard de l'enregistrement extrêmement mauvais de l'époque. Est-ce qu'on a entendu femme plus... simple au niveau du chant et plus sophistiqué. Est-ce qu'on peut imaginer un grand écart plus grand que celui-ci ?
Qu'est-ce que vous voulez dire par sophistiqué ?
Les fleurs, toutes les fleurs, quand elles fleurissent ces phrases chez Bellini, elles sont libres, ce sont les moments d'improvisation de toutes les divas, elles font des fioritures, on attaque la note par la note du dessus, on la fleurit par la note d'en dessous, on trie ou on vibre, on fait des contretemps, enfin, etc. Et puis la cadence à la fin où l'orchestre se retient, tout le monde retient, et madame pose la dernière note, et elle le fait, on entend tellement, surtout dans ses graves et ses médiums que Médée n'est pas loin, c'est-à-dire les rôles très dramatiques qu'elle a joué au cinéma. Dans son timbre de voix, il y a une sorte de vin de Bourgogne, une sorte de vin de garde, un truc large, épais comme ça. Et pourtant, madame se permet de flirter avec une assurance, un repos, une sorte de sérénité. Et pourtant, ça a été la guerre en permanence pour elle. Ça a été la guerre. Je sais même pas comment elle a tenu sa vie entière. Contre sa mère, contre ses, enfin, tout ce qui s'est passé, quoi, quand on connaît sa vie. Donc c'est l'absolu, absoluta diva, c'est elle.
Et c'est la première chanteuse que vous avez découverte dans le registre classique, en tout cas.
En registre classique, maman faisait tourner, on avait des gros, il sortait à l'époque déjà des coffrets de toutes ces années 50, 60, 70. Moi, je dois avoir 8, 10 ans et on commence à écouter la Callas fort sur la chaîne IFI. Tous les Bellini, les Donizetti, les Verdi, etc. Et moi, je m'amuse avec... Je fais des cours de jazz, bien évidemment, où j'essaye de scatter avec Ella Fitzgerald. Mais vocalement, à 10, 12 ans, 13 ans, je commence déjà à essayer de...
D'imiter.
Et c'est là qu'on commence à comprendre que j'ai la chance d'avoir un organe, mais pas celui de Callas, bien évidemment.
Thank you.
Un extrait du Requiem de Mozart, Marianne James, pour vous qui êtes l'invité de Musique et moi ce matin. Alors, vous avez une écoute très profonde, très particulière, déjà de l'écriture de Mozart. Vous faisiez l'analyse en direct pendant qu'on écoutait la musique.
Parce que c'est le musicien classique, plus que je trouve que Tchaïkovski ou Beethoven, le plus contrasté, le plus spectaculaire. Et je trouve que les chefs d'orchestre qui osent vraiment les triples pianissimi et les forte fortissimo ont raison et
pourtant les Arnaud Coury ici
voilà hein. ils ont raison parce qu'il avait besoin de sensations, il avait besoin de d'opposer les anges à l'enfer, que les portes s'ouvrent, se ferment et claquent, qu'il y ait du rire, que ça soit bien évidemment coquin, on le savait coquin, ses lettres nous l'ont prouvé, il était même très 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 coquin, je crois que le siècle l'était aussi, et j'aime beaucoup les tiraillements, il est pas en permanence, il est en paradoxe et en union, l'union, le paradoxe, l'union, le paradoxe, etc. Il fait la paix, il fait la guerre en permanence, contrairement à Bach qui lui place absolument toutes les choses et construit vraiment l'architecte. Lui déconstruit, il va ailleurs.
Et c'est une musique que vous associez à votre papa.
Papa aimait énormément le Requiem de Mozart, donc effectivement, le jour de son enterrement dans l'église, avec une très mauvaise sono, on a entendu un petit bout aussi, un extrait de ce morceau-là, oui, effectivement. Mais heureusement pour moi, le Requiem est tellement grand que je ne l'associe pas forcément toujours à la mort du père.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Et pourtant, on va parler de votre père, parce que ce lien à votre père est très étonnant, très fort. Je crois que vous n'avez pas beaucoup parlé jusqu'à l'âge de 5 ans, vous êtes bien rattrapé depuis.
Oui.
Mais c'est votre père, en quelque sorte, on a l'impression qu'il est venu vous sortir de à la fois de cette anorexie et de ce silence.
Oui, petit bébé, j'arrivais dans un milieu nourricier qui était la pâtisserie. Et le plus bel affront que je leur ai fait, d'entrée, ça a été la guerre, j'ai refusé tout. Le sein, la cuillère, le biberon, la bouillie, voilà. Donc une petite fille qui ne veut pas manger. C'est un bébé qui maigrit et au bout de quelques mois, on a été obligé de me séparer du milieu familial pendant 2-3 mois dans un institut spécialisé pour que je mange, pour que je grossisse, puisque je retournais vers mon poids de naissance. Et donc, on s'est aperçu surtout que j'avais des amygdales, que j'étais en permanence un bébé qui avait des angines. Un jour, on les a opérées, mais tard, j'avais 5 ans. Et à mon réveil, mon père était là. Je pense que ses gâteaux, ses croissants étaient faits. Et il était à côté de moi. Je le voyais en contre-jour. Je me souviens, c'est mon premier souvenir. Je n'ai pas de souvenir avant cette opération des amygdales et des végétations. Et mon père, Maurice, était là, en contre-jour, avec la grande fenêtre de la clinique. J'étais seule dans cette chambre. Et il avait une glace à la fraise qu'il venait juste de turbiner. Il était arrivé avec cette glace à la fraise, puisque quand on a une angine, il faut manger froid. En tout cas, à l'époque, c'est ce qu'on disait. Et il me donne la béquée, quoi. Il me donne cette glace à la fraise. Donc la glace, la fraise, le père, le premier souvenir, tout est là. Moi, je suis née ce jour-là. Et à partir de là, j'étais bavarde, souriante, j'ai mangé, j'étais curieuse. La vie pour moi a commencé là.
l'Andante de la sonate pour deux pianos en ré majeur de Mozart, arrangé pour piano et marimba et interprété par Thomas Senko et Vassilena Serafimova. Marianne James, c'était pour poursuivre la conversation autour de Mozart, parce que vous l'aimez éperdument, vous avez poussé des soupirs pendant cette interprétation.
C'est tellement ludique la manière dont ils ont fait les choses, je les entends penser tous les deux interprètes. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'il a écrit Mozart? Bon, alors cherchons pas plus loin, faisons juste ce qu'il a écrit. Oui. Le marimba oblige aussi à une certaine simplicité, notamment pour les fleurs, les fameuses fioritures, oui, les tris, des choses comme ça, que voilà, on avait chez Bellini, mais qu'on a bien aussi chez Mozart. Et elles sont censées être faites avec plusieurs doigts au piano. Oui. Elles sont des doigts qui sont faits pour. Oui. Et là, tout d'un coup, il faut le faire
plusieurs mains.
Avec plusieurs mains. Et c'est très, du coup, c'est très ludique, c'est très enfantin, et ça va, ça donne quelque chose de très naïf qui m'a beaucoup plu.
Quand on vous a interrogé donc sur vos choix musicaux, vous avez dit j'aime Mozart pour son côté borderline. Alors forcément, j'ai envie de vous demander ce que vous voulez dire par là, Marianne James.
Alors bien évidemment, si vous l'écoutez qu'en allant dans un grand restaurant et en sourdine derrière toutes les moquettes et les 8 serveurs autour de la table, moi je me souviens de ça quand j'étais petite, on entendait de la musique classique. Si on associe la musique classique à ça, il n'y a rien de borderline. Mais en vrai, quand on a un tout petit peu étudié sa vie et juste puisqu'on a la grande chance d'avoir sa correspondance, il était en pétard tout le temps. Il était en colère, il trouvait qu'il n'y avait jamais assez d'argent pour les effets spéciaux, pour les musiciens. Il parlait des instruments, il était... il voulait pousser les lignes, quoi. Il trouvait que le siècle était étouffant. Il en avait marre qu'on lui commande les musiques. Il voulait écrire sa musique à lui. Il a dit, on chante toujours en italien à l'opéra. Eh ben, on va le chanter en allemand. On a crié au scandale. Et ça a donné des opéras magnifiques en allemand. Et c'est un vrai punk, quoi. Il était un révolutionnaire, presque un anarchiste. Il, en permanence, dans son siècle, il a foutu le bordel, ça s'appelle comme ça, quoi. À la cour, il s'est fait virer, il avait plus de pognon, il aimait tant son père, mais il était en révolte avec, il faisait souffrir sa femme, il était fou d'elle, il aimait finir, voilà, il y a eu des afters et des before, il serait entre Gainsbourg, toujours la nuit, sorti avec des femmes à son bras, tout en idolâtrant son épouse à la maison. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, quoi? Sa vie fut courte, mais bien remplie. Alors, courte, pour l'époque, elle était déjà pas mal.
Mais cette sonate, par exemple, il l'a composée quand il avait 25 ans, ce qui est quand même, quand on s'imagine 25 ans, c'est encore tout jeune, et il y a une maturité.
Mais il y a même une certaine simplicité, une certaine, maturité, comme vous dites. Ouais.
Marianne James, vous, qui n'êtes pas borderline, mais qui êtes une femme libre, qu'est-ce qui a fait que vous avez, à un moment, cessé la guitare? Parce que vous avez commencé par la guitare. Qu'est-ce qui vous a emmené vers la voix, vers le chant?
En fin de compte, c'est qu'à un moment, dans les cours avec Tony Petrucciani, il y avait énormément de gammes à faire. Et moi, là, j'ai déjà 12, 13 ans, ça fait un an ou deux ans que je pratique l'instrument. Et vraiment, Tony était très, très, très rigoureux, le père, donc, Petrucciani. Il y avait vraiment des gammes en sol mineur, 7, 9e à monter, des trucs vraiment jazzy sur toute la longueur du manche de la guitare pour vraiment ne jamais être pris au dépourvu en impro et pouvoir autant sonner dans les toutes petites notes aiguës quand les deux mains sont rapprochées ou dans les notes graves quand les deux mains sont très écartées sur le manche. Et au bout d'un moment, je faisais beaucoup de chorale, je faisais beaucoup de sport, je faisais beaucoup tout déjà, et je les faisais à la voix.
Des gammes.
Donc je les chantais, je les doublais. Il aimait bien ce côté un peu George Benson faisait ça aussi à l'époque. Il me faisait écouter du George Benson et je doublais mes notes de guitare à la voix et en même temps à la chorale. Marie-Christine Bertrand disait bon, la petite choriste de 11-12 ans là, elle va devenir soliste dans même pas deux mois. Là on la passe devant et je commençais déjà à chanter Didon aîné de Purcell. Je faisais pas Didon, mais je faisais une sorcière ou une suivante auprès de Didon. Et au fur et à mesure, on s'est aperçu que le verbe, l'attitude, le geste, la guitare était pour moi encore trop petite comme espace. Il fallait que j'intègre le corps. Oui, voilà. Mais je joue toujours de la guitare, bien sûr. Thank you.
Lorsque je serai portée en terre, que mes défauts ne troublent ton souffle en ton sein. Souviens-toi de moi, mais oublie mon destin. C'est un extrait de Didon aîné de Purcell, dont on parlait à l'instant, Marianne James, que vous avez chanté.
Oui, je l'ai étudié, je l'ai chanté à la chorale. Si jamais la soprane était, voilà, j'étais renfort, comme on dit, seconde. Mais j'avais 14 ans et la femme qui le chantait en avait 20. Mais je l'ai étudié, c'est un des premiers airs classiques que j'ai chanté. Et ce que j'aime plus que tout dans cet air, c'est pas de l'avoir fait comme premier air que j'ai appris, c'est que il faut bien comprendre qu'elle est dévastée par le chagrin, dis donc, mais dévastée. Elle est déjà morte, elle est survivante. Et on ne peut pas arriver à faire des Remember Me avec des Remember Me, enfin comme on imagine dans l'opéra. Il faut vraiment se retenir. Non. Il faut avoir déposé les armes, il faut avoir plus que du souffle. Et ce que j'aime dans cet enregistrement...
Donc c'est Catherine Butt qui interprète avec l'Academy of Ancient Music et sous la direction de Christopher Hogwood.
Ce que j'aime dans le directeur artistique de cet album, dans l'ingénieur son, dans le chef d'orchestre qui a accepté ça, où tout le monde était d'accord qu'elle fasse des « Remember me ». Il y a presque des chuchotis. Vous imaginez, on est loin de Wagner, qui correspondrait aux peintures, au Louvre, les grands tableaux, vous savez, les épopées, etc. Alors que là, on est vraiment dans une aquarelle. Mmh. C'est pas qu'on se retient de chanter, c'est que on dépose vraiment le matériel. On ne laisse plus que l'âme parler. On n'est pas loin de la musique religieuse aussi, ou de la voix d'enfant, mais c'est une femme brisée. Alors, il y a une version incroyable avec Jesse Norman qui est le chanteur, alors qu'elle arrive avec tout son vibrato, mais qui est une telle artiste qu'elle arrive à en faire une Didon très reine, hein, très très reine, qui donne son dernier automne, quoi, sa dernière petite feuille jaune accrochée à l'arbre comme ça. C'est un air magnifique, hein, dans la musique baroque. Moi, je suis beaucoup plus branchée par cette musique-là que la musique du 19e, ça c'est sûr.
Et vous, quand vous avez choisi à un moment de votre vie de prendre le chemin du chant, vous êtes passée par le conservatoire, Marianne James,
J'étais au Conservatoire international de musique de Paris. Alors j'ai eu mon prix très 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 rapidement. Tout allait très bien pour moi. J'étais soprano spinto et tout allait bien. J'ai commencé à passer des auditions et j'étais jamais prise. Vraiment, j'étais seconde, troisième. J'avais du mal à avoir les rôles. Et jusqu'en 1987, jusqu'à essayer de rentrer à 25 ans à l'école de l'Opéra de Paris. Où là, vraiment, ils m'ont fait chanter tout mon répertoire. On devait préparer 7 œuvres en tout, hein, des mélodies françaises, de l'opéra français, de l'opéra étranger. Ils m'ont fait passer tout mon répertoire, mais à une voix près, je ne suis pas passée. J'étais pas assez bonne, tout simplement, je crois. Je crois que c'est la vérité.
Je vais vous demander comment vous l'expliquez, c'est ça.
J'étais pas assez bonne parce que je continuais à faire du jazz. J'allais chanter souvent au Baiser Salé, qui est une boîte dans les Halles. J'avais encore la double casquette et que je n'ai jamais lâchée. Et je ne me suis pas jetée à fond dans l'univers classique parce que je sentais que les murs étaient un petit peu étroits et un petit peu humides.
Frühling des Fearless Leaders de Richard Strauss, interprété par Kirite Kanawa avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne sous la direction de Georg Scholti. Marianne James, là, c'est un lead que vous avez chanté.
Oui, je l'ai travaillé en tout cas. Je les ai tous travaillés, les quatre derniers leaders de Strauss. J'aime Morgan aussi, Frühling, etc. Tous ces instants. Mais là, c'est Hollywood. Hein, c'est Hollywood. Qu'est-ce que je veux que je vous dise? C'est la débauche d'harmonie, d'orchestre. Je pense qu'il y a tous les compositeurs dans ce morceau-là. Ils y sont tous. On les citait pendant l'extrait.
Oui, c'est vrai.
De Mahler à Beethoven, il y a déjà du Wagner qui pointe sa corne. Il y a l'académisme, et puis surtout, vous vous rendez compte ce que la chanteuse doit absolument maîtriser au-dessus de ça, et le texte, bien évidemment, le fameux romantisme allemand. Entre la mort, la naissance, la nature, qui est la création absolue, et nous qui ne sommes qu'un élément au milieu. Les premiers écolos sont les Allemands, c'est normal, hein, c'est dans leur racine, hein, c'est dans leur philosophie.
C'est vrai.
Voilà.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Avec Marianne James ce matin, invitée de Musique et moi jusqu'à midi et demi sur France Musique. Cet épisode qui a duré quand même quelques années de répertoire classique, d'insistance dans ce répertoire. J'ai lu que vous disiez être un peu l'ombre de vous-même à cette époque-là. Qu'est-ce qui...
Ben, j'étais scolaire, je passais des stages à l'abbaye de Royaumont, qui est le grand centre vocal d'Île-de-France, avec la Juilliard School, auprès de Lauren Newbar, une prof vraiment géniale avec qui j'ai travaillé moult fois. J'allais à l'Institut autrichien avec Paul von Schilowski, qui a été longtemps recteur de l'Académie Mozarteum de Salzbourg. Il y donnait des cours, j'ai fait énormément de stages pour vraiment comprendre que Schubert ne demande que des petits moyens simples, mais que chez Brahms, dans le Lied de Brahms, il y a autre chose, de parler l'allemand. J'ai vraiment poussé loin toutes mes curiosités sur la musique, vraiment. Mais... moi, ma carrière ne décollant pas, il fallait que je vive, quoi.
Ouais.
Et là où c'est arrivé, c'est que, à côté de ça, j'étais clown, hein. Je commençais à devenir clown professionnel. Un vrai clown, hein.
Ah oui?
Oui, clown. Je suis clown aussi dans la vie.
Non, mais vraiment clown?
Alors, clown, non pas avec des grandes chaussures.
D'accord.
Et un nez rouge, mais c'est-à-dire de trouver ce qu'on appelle une femme humoriste. C'est faire rire, quand même.
Ouais. Hein,
c'est clown. Et ça commençait à marcher. Et à force d'être allé à la fac, en niveau maîtrise, en musicologie, d'avoir fait du théâtre de rue, d'avoir fait la Manche, d'avoir été au Mozarteum de Salzbourg, d'avoir fait des stages dans le monde entier, j'ai créé Ultima Recital, Ulrika von Glott, dans ce spectacle.
Ouais.
Et c'est en mélangeant le rock, le jazz, le lyrique, l'humour, l'impro, le théâtre, c'est en mélangeant tout ça que ça a décollé. Mais quand je dis décollé, ça a décollé tout droit, tout vertical, comme une fusée, ça a décollé. Ça n'a pas pris un peu de temps. Au moment où j'ai créé Ultima Recital, ça a fonctionné pratiquement tout de suite.
Donc l'homme aussi a pu apparaître en vous, on peut dire ça comme ça, Marianne.
C'est ça, oui, j'ai accueilli le garçon qui est en moi, bien sûr.
Schön ist es.
Extraordinaire, Jonas Kaufmann. Voilà, que vous applaudissiez Marianne James dans cette air de Mario et Luce Van Nestel et de Tosca de Puccini.
Une fois, il le fait dire. Puccini, une seule fois, il lui fait dire « Je n'ai jamais aimé autant la vie, puisque je sais que je vais la perdre. Oui. » Il aurait pu, franchement, il aurait pu le mettre une deuxième fois, exposer le thème, cette grande phrase à la fin. Mais alors, cette voix qu'il a, on dirait un baryton.
Kaufmann,
c'est incroyable, on dirait un baryton. Vous comprenez, on dirait que c'est une voix beaucoup plus grave, alors que ce sont les notes, les vraies notes, lutte à la fin, et il le chante comme s'il était baryton, tellement il y a de la couleur, mais l'artiste qu'il est, quoi. Mmh. Les pianissimi, de nouveau, les fortes, ils font ce qu'ils veulent, ce sont des athlètes. Vous vous souvenez du « la » du téléphone? Vous savez quand on avait des tonalités
oui,
sur les téléphones, pour les plus
grands, oui.
Dans l'oreille. Ça faisait, ou en diapason, on tape, on fait comme ça, et ça faisait « ting ». Il y avait une note comme ça, on appelle ça le « la » 440 Hz. Mmh. Si vous chantez le « ouh » le « la », eh bien vos cordes vocales s'ouvrent et se ferment 440 fois par seconde pour faire cette note, d'accord? C'est comme ça que l'appareil vocal fonctionne. Un ut, c'est le double, c'est 880. Et alors quand ils m'ont décontreré, on est sur des voix qui vibrent à 1000, 1002, parfois 1300 ouvertures, fermetures par seconde.
Mmh.
Vous imaginez le moindre chat? La moindre poussière, la moindre clim, ce sont des athlètes. Mais c'est mieux que les Jeux Olympiques. Vous vous rendez, les gens ne se rendent pas compte à quel point la voix, c'est une somme de travail.
Ouais.
Mais alors, ce qui est génial, comme Alania, comme lui, il y a ceux qui sont avec cette indécence magnifique. C'est-à-dire qu'on sent que la voix est naturelle et qu'ils sont tombés sur des chouettes profs qui leur ont pas bousillé la voix. Ouais. Et ils chantent presque, parce qu'il fait pas de grimace quand il chante. En plus, il est beau.
Il est beau.
Non, mais c'est scandaleux.
Marianne James, c'est un air que vous chantez aussi sur la douche.
Oui.
On parlait de votre investissement en homme, mais vous aimez bien chanter les airs d'homme.
Je trouve que les airs d'hommes, j'ai été professeur longtemps de chant et je faisais travailler à mes chanteuses, aux femmes qui étaient pas connectées à leur grave, dans leur tonalité, quand elles chantaient toujours un peu diaphane, un peu fifi, etc. Il y a un moment, il faut être un peu, c'est un peu trivial le chant et beaucoup, Montserrat Caballé a donné des masterclass magnifiques où elle explique qu'il faut vraiment être raccordé là où je pense et elle le montre, hein, dans les, à l'INA, vous trouverez les documents, les fameuses masterclass à Vichy de Montserrat Caballé, qui était une prof aussi géniale et très drôle. Il faut à un moment comprendre que la voix ne peut pas marcher sans le corps. Mmh. Et il y a un air « Se vuol ballare, signor Contino » dans les notes du Figaro.
Mmh.
Les notes de Figaro. Et « Se vuol ballare » qui est un air d'homme. Et je le faisais chanter aux filles pour qu'elles arrêtent de faire « Se vuol ballare, signor Contino » Se vuol ballare, signor Contino. La petite guitare. Il chitarrino. Et pour faire il chitarrino. Non. Prends-toi pour un. J'aurais été prête à leur mettre une collerette. Tu sais, les habiller vraiment dans un costume pour que le théâtre. Et l'oublier qu'elles sont des filles, qu'elles sont sur des talons, qu'elles ont la taille serrée, qu'elles ont mis du gloss, etc. Qu'elles se sont préparées en filles. Il y a un moment, il n'y a plus de filles. Il n'y a plus d'enfants. Il n'y a plus d'adultes. Il n'y a plus d'hommes, il y a juste le corps et la voix, quoi. Et je leur faisais travailler des airs d'hommes, mais dans leur tessiture de fille. Et j'obtenais des résultats dingues. Du coup, je l'ai fait pour moi. Et pour me mettre en voix, eh ben, celui qu'on vient d'entendre, je le chante. Alors, je le chante à ma manière, dans la douche.
Et c'est comme ça un peu qu'est née Ulrika von Roth.
Von Glott. Oui, Ulrika von Glott est née fille, homme et femme mélangés, bien évidemment.
un peu de bonheur ce matin sur France Musique avec vous, Marianne James.
Oui,
c'est cette ouverture
tous,
de...
Oui. Bonjour à tous et bienvenue. Et bienvenue sur France 2. Donc, voilà.
Sur moi, France Musique. Voilà, je sais que vous croyez sur France 2 là,
oui,
tout de suite.
Mais quand j'entends ça, ça me rappelle le boulot.
Oui, c'est ça. C'est, dès que vous l'avez entendu, vous m'avez dit, ça y est, c'est prodige, on y va, c'est parti.
C'est prodige, on y va. Ah oui, vraiment, pour ma vie entière, là, voilà, les 8 prodiges que j'ai fait sur 4 ans, chaque fois 2 émissions. Plus, bien évidemment, celle, la merveilleuse émission qu'on avait fait en direct avec les 10 532 choristes des Hauts-de-France au stade Pierre-Mauroy. C'était au mois de juin 17. Et c'était notre générique d'émission, c'était l'ouverture, voilà, de Carmen.
Ça, c'est votre autre aspect, Marianne James. Vous disiez, à un moment, je me suis découverte clown, donc il y a Ulrika von Glott. Et ce personnage qui est bien le vôtre, et quand on pense à vous, on pense à tout ça de vous, la télé, quelle dimension ça a apporté?
Alors, c'est une dimension à double tranchant, bien évidemment. On va être très très honnête, la télévision, c'est être plus connu, avoir plus d'argent, donc plus de moyens pour faire ses projets à soi aussi. Je peux pas être plus honnête que ce que je viens de vous dire, mais j'avais envie aussi d'aller dans des émissions qui me plaisent. Et la télé, je l'ai connue parce que j'étais invitée, comme aujourd'hui.
Ouais.
Voilà, je suis invitée en ce dimanche auprès de vous. J'étais simplement une femme qui venait parler d'Ultima Recital ou d'une pièce de copie que je jouais à l'Athénée. J'étais invitée, eh ben, chez Michel Drucker, chez Ruquier, etc., un peu sur Arte, et voilà. Et au fur et à mesure, un jour, M6, il leur manquait une femme jurée. Ils voulaient quelqu'un qui ait du tempérament. Ils m'ont appelé, ils me connaissaient pas trop et ils m'ont dit qu'est-ce que vous penseriez de faire de la télé? Là, honnêtement, c'est quand même là, quand on m'a fait la proposition, j'ai presque mis 10 jours avant de répondre,
ah
ce
oui.
qui est beaucoup. 10 jours dans ce métier, c'est beaucoup.
En vous angoissant,
en demandant autour de moi, c'était moite-moite exactement. J'ai demandé à la famille, le premier cercle, le deuxième cercle, les amis, après les gens du métier à qui je faisais confiance déjà, des gens de théâtre. Tous les gens de théâtre m'ont dit n'y va pas, tu vas abîmer ton image. Ils avaient raison. Parce qu'on abîme son image à faire de la télévision.
Ah oui,
ah oui, on la bousille. Mais entre-temps, on fait d'autres choses, etc. Après, voilà. Après, ils nous le pardonnent. Mais oh là là, après Ultima Ristal, que je voyais faire de la télévision, j'ai... Ouh là là, ça a été piquant sur certains centres culturels, des scènes nationales, etc.
Parce que c'était un vrai succès, Ultima Ristal.
Oui, mais c'était quand même dans la veine pour les gens qui ne regardent pas ces programmes. Pour eux, c'était la Star Academy, mais sur M6. Eux, ils pensaient, voilà, qu'on les voyait courir le matin autour du château, etc. Nous, on proposer un programme vraiment lié qu'à la chanson pop, quoi, la chanson à la variété. Et quand j'ai vu qu'autour de moi, c'était moite-moite, j'ai pris ma décision, je me suis dit, je connais pas cet univers-là, j'ai toujours été invitée. Et si j'étais vraiment employée par la télévision? Et effectivement, du jour au lendemain, vous devenez connue. Parce que moi, à l'époque de La Nouvelle Star, on m'appelait Maria Ulrika von James ou Ulrika von Pepita von Ultima von, enfin vous voyez, je n'avais
von Recital.
Von Recital, exactement, d'ailleurs tout était mélangé, quoi. Et ça m'a offert un nom, le mien, et mon visage.
Et prodige, au fond, c'est peut-être ce qui a le mieux collé à votre image.
Ah oui,
on va en parler.
Oui.
Thank you.
Après un rêve de Gabriel Fauré, interprété par Guillaume Vincent au piano et Camille Berthollet au violoncelle. Vous applaudissez Marianne James.
Oui.
C'est une prodige, Camille Berthollet.
Alors là, vraiment, voilà. Il faut tomber sur une gamine comme ça, 14 ans, quand elle nous joue, il y a déjà 4 ans, l'extrait de Vivaldi, qu'elle dirige elle-même avec sa chevelure, on est sur prodige, on est sur la finale, et elle dirige les 12 ou 14 musiciens violonistes aussi autour d'elle, violoncelle, comme la musique le demande de Vivaldi, c'est-à-dire pas tout l'orchestre, mais ouais. Voilà, juste les crin-crin, comme on dit. Elle fait l'été de Vivaldi, et là, d'où elle nous fait ça? Qu'est-ce qui se passe? 14 ans, 14 ans et demi, je crois. D'où elle sort cette flamme? Je sais bien qu'il y a beaucoup de travail, mais d'autres avec beaucoup de travail n'y arriveront jamais, quoi. C'est prodigieux. On sent bien, voilà, pour moi, je veux croire qu'il y a des êtres sur la Terre qui sont choisis. Voilà, ça, c'est ma conviction. Alors, je le sentais déjà avant l'émission Prodige, mais là, le petit marin qui a 11 ans et demi ou 12 ans et qui nous joue qui joue là le concerto en si bémol de Mozart, on le réveille, il a 12 ans, il prend sa clarinette, la clarinette est plus longue que lui. On le réveille, il est 22h, d'habitude il dort à 21h, on y va, allez va jouer Mozart. Il joue et le chef clarinettiste de l'orchestre de Tours qui me dit, les larmes pleines de yeux, et qui me dit, voilà, il y a des collègues de leur vie entière, ils n'auront jamais ce son, d'où ce gamin à 12 ans, la clarinette, un des instruments les plus difficiles avec le hautbois, arrive à avoir le silence mozartien qui va avec et la ligne de souffle dans des tout petits poumons. Mais comment font-ils, quoi? Ça vient même pas de leur prof. Vous comprenez bien que quelque chose est bien plus impérieux que ça. Appelez ça Dieu, appelez ça ce que vous voulez. C'est ça, être prodige, quoi. Vous êtes choisi, vous êtes l'élu. Hein, voilà. C'est comme ça.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Et la passionnée qui parle derrière ce micro ce matin, c'est Marianne James.
Ça y est, j'étais calme au début de l'émission, mais ça y est.
Ce retour à la musique classique, Marianne James, pour vous qui avez un peu souffert finalement dans ce costume-là, c'est quoi? C'est un retour prodigieux? On vous sent à l'aise, hein? Très à l'aise, très dans, heureuse.
Dans l'émission prodige ou
dans l'émission prodige et puis finalement dans la vie.
Dans la vie. Ben, c'est-à-dire que j'ai plus de douleur, moi, avec la musique classique. Elle m'est offerte exactement comme vous. Je l'aime en amateur, puisque je n'en fais plus. Mmh. Et donc, elle est infinie, avant que les publicitaires l'aient pillée. Mmh. Hein, parce que, franchement, des très jolis thèmes, ils coûtent zéro centime, hein, puisqu'ils sont au domaine public. Et donc, on connaît énormément de morceaux classiques qui sont massacrés. Et c'est bien de les retrouver, de les défendre dans leur jus, dans ce pourquoi ils sont faits. Thank you.
Yo-Yo Ma, Chris Thiele à la mandoline, Edgar Meyer à la contrebasse, interprète la sonate numéro 3 en sol mineur, BWV 1029 de Jean-Sébastien Bach. C'est Yo-Yo Ma qui vous plaît au départ, et puis j'avais envie de vous proposer de la mandoline avec
Marianne James. Ça me plaît énormément. Ouais. J'avais l'impression de deux petits écureuils qui ne cessent de se piquer des trucs ou de se faire des petits mimis, de s'échapper, ou des circassiens qui voleraient sous nos yeux. Il y a une telle juvénilité dans cette musique. Et on entend qu'ils sont heureux tous les trois.
Et Bach, vous me disiez tout à l'heure en l'écoutant, vous me disiez, en fait, c'est votre anxiolytique.
Vraiment, vraiment. Plutôt que de prendre un cachet si je suis un peu nerveuse, apprendre des mauvaises nouvelles, des retards. Nos métiers sont parfois pas faciles et je monte facilement dans les tours. Pour redescendre de la tour, à la maison, tranquille, plus de bruit, plutôt seul, du Bach, n'importe quel Bach, et j'écoute. C'est pas, tiens, de loin, en faisant un truc. J'écoute vraiment la musique, et vraiment la manière dont il écrit, ça remet mon cerveau tout d'aplomb. Voilà.
À l'endroit.
À l'endroit.
Vous qui aimez depuis toujours transcender les genres, Marianne James, ici dans cette interprétation donc, qui est arrangée pour violoncelle, mandoline et contrebasse, est-ce que vous y êtes retrouvée ?
Ah, totalement.
Oui.
Ah, totalement. De mélanger les genres. Je crois que le mandoliniste est un peu jazzeux aussi.
Et oui, il peut jouer avec Brad Meldow voilà, sans c'est problème.
Ça. Ben, maintenant, ça y est, hein, depuis 20 ans quand même, les frontières ont été soulevées quand même, je trouve. Hein.
Vous avez été au début de cela.
Enfin, moi, je n'ai pas fait grand-chose là-dessus. J'ai mélangé théâtre et opéra, surtout avec Ultima Recital. Ouais. Après, on m'a toujours demandé de choisir. C'est la question que j'ai plus en Mademoiselle James. Il faudra choisir à la fac, à l'école, dans les auditions. Il faudra choisir. Comme si on devait choisir entre son père et sa mère, entre l'été et l'hiver, entre le fromage et le dessert, entre la pop ou le classique. Et je n'ai jamais choisi. J'ai dit, la vie nous offre tout ça. Tout ça est à moi. Voilà, donc je serai les deux.
Et la Fitzgerald dans tout ça ?
Et la Fitzgerald, c'est le modèle absolu parce que je ne peux pas penser à Callas sans penser que la vie qu'elle a eue avec, je ne voudrais pas avoir eu la vie qu'elle a eue parce que ça a été trop de chagrin. Alors que la vie d'Ella Fitzgerald, ça a été vraiment un soleil de bout en bout. Elle a gardé sa voix et la tonalité des chansons qu'elle chantait à 20 ans, à presque 80 ans, elle les chantait encore. Beaucoup d'humour, beaucoup de rire et de scat, beaucoup d'émotion.
Et de résilience aussi.
Oui.
Ella Fitzgerald, Duke and His Orchestra, qui a interprété Caravan, mais ce ne sont que des onomatopées.
Elle a pris le son de l'orgamon, elle a fait boo-boo-ri, elle avait ses petites diphtongues, à un moment elle est trompette, à un moment elle est guitare, avec sa voix, elle est comme un oiseau, elle imite, elle s'amuse, voilà, c'est le secret, continuer à s'amuser.
Ouais, ça vous met dans un état d'euphorie.
Ah hein, ouais, ça me fait plaisir. Très.
Vous, Marianne James, on n'a pas encore parlé de votre spectacle, mais l'heure est venue d'en parler. Tati Jambon, racontez-nous ce que c'est. C'est un spectacle, donc un concert tout public dès 4 ans. Qui se joue à la Grande Comédie de Paris actuellement.
Depuis hier. C'est un concert de Tati Jambon. Ce sont des extraits, en fin de compte, c'est les 7 chansons du premier album qui s'appelait Tous au lit et 7 chansons du deuxième album qui s'appelle Tous heureux. Mmh. Et cette Tati Jambon, c'est la Tati rêvée. Elle n'a pas de mari apparemment, elle n'a pas d'enfant, mais elle a apparemment les moyens, elle voyage beaucoup et surtout, elle a son brevet de pilote d'avion. Elle conduit Air Licorne A380. Une grande licorne avec des ailes, hein. C'est un peu Pégase, hein. C'est une licorne Pégase.
Pas mal.
Ouais. Et tout le monde monte sur son dos et on part pour une rêve partie, comme un rêve, mais une rêve partie, où on va tenter de savoir c'est quoi le bonheur? Est-ce que ça fait tant de bruit que ça? Est-ce qu'on le sait vraiment quand on est heureux? Et avec Tati, on se pose plein de questions, mais surtout en chanson et en rythme. Voilà, on s'amuse.
Tati Jambon, elle a l'air très, très sympathique.
Elle a son caractère, hein. Parfois, elle a 4 ans et demi. Hein. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je trouve les gamins, parce que j'ai un public aussi d'enfants. Il y a leurs parents et leurs grands-parents. C'est vraiment mélangé, c'est familial. Et les enfants, c'est pas le public le plus simple.
Et le registre musical, justement, vous qui naviguez depuis toujours dans tous les registres, qu'est-ce que vous avez choisi? Parce que je crois que vous avez coécrit le spectacle.
Avec Valérie Bourg, ouais. Qui est une fille de Radio
de
France.
La maison,
de la maison, qui a beaucoup travaillé chez vous.
France Inter.
Et bien, la musique, je dirais, principale de Tati, c'est la bossa nova, mais elle en profite pour faire du rock, de la samba, de la musique country. On a le Texas qui débarque parce qu'on voyage beaucoup. Il y a de l'opérette avec une chanson qui s'appelle Soyons dégueux pour dégueulasse ou sur une petite voix très limite clavecin, voix ravissante. Tati énumère toutes les choses absolument dégueulasses que les grands et les petits aiment faire. Et il y en a beaucoup. Et à cette occasion, il se passe une chose parce qu'il y a des sketchs à l'intérieur des chansons et des chansons à l'intérieur des sketchs. Et tout ça se retrouve sur scène.
Donc Tati Jambon, c'est depuis le 20 octobre à la Grande Comédie. Et puis ça partira en tournée en janvier.
Oui, dès janvier 19 jusqu'à fin été 2020 parce que nous sortons d'Avignon. Avignon, c'était vraiment il y a 2-3 mois. Et on l'a créé au Festival d'Avignon. Et vraiment, ça a été très, très bien reçu parce que les grands se sont dit, enfin, on peut venir voir un spectacle pour les petits. Mais on est aussi...
Sans s'ennuyer.
Ils s'ennuient pas parce que le style musical leur parle, bien évidemment, complètement. Il y a du reggae, très, très bien. Et ce que j'aime bien, c'est que Tati, elle a tous les caractères et les petits sont un peu déstabilisés au début et c'est fait exprès. Je sais très bien où je mets les papates. Et après, bien évidemment, une fois qu'ils sont déstabilisés, je les récupère dans mes bras ouverts. Et là, la rêve partie peut vraiment partir. Quoi. Il faut vraiment, vous savez, nous les humoristes et musiciens, on doit vraiment, un petit peu être le patron au début et leur dire, vous savez quoi, je prends les rênes de l'avion et vous allez voir, c'est moi qui vous embarque maintenant. Et vraiment, Tati prend tout le monde dans ses bras, les grands, les petits, les moyens, etc. Et ça va loin. Et ça, alors attention, il y a un petit peu de poivre, hein, je tiens à le dire, ça pique un peu.
Mais c'est très bien, voilà, comme vous, vous piquez. Oui, et c'était un plaisir de passer, d'avoir passé cette matinée avec vous. Et l'heure est venue de nous quitter,
Ryan
James.
Vite, ouais.
Et comme vous avez justement ce piquant, ce côté poivré, j'avais envie de vous quitter sur Ne me quitte pas, parce que...
Ça, c'est beau.
C'est difficile de vous quitter et je crois que c'est votre chanson.
C'est la plus belle chanson d'amour et de désamour parce qu'il faut avoir eu un vrai grand chagrin d'amour pour comprendre enfin la phrase laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ton chien, l'ombre de ta main. Tant qu'on n'a pas vécu un grand chagrin d'amour, on ne peut pas comprendre cette chanson.
Alors, on n'a pas vécu une grande histoire d'amour avec vous ce matin, Marianne James. Néanmoins, on a vécu quelque chose d'assez intense.
Merci.
Voilà pourquoi se quitter avec Jacques Brel est une belle nouvelle.
Oui, c'est le plus grand en pop française, c'est lui.
Tati Jambon, c'est à la Grande Comédie et en tournée à partir de janvier 2019. Merci beaucoup, Marianne James.
Merci d'être venue passer cette heure. Votre playlist était votre liste de chansons en français. J'ai adoré, merci beaucoup.
Merci, à très bientôt.
Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oubliez le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oubliez ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter, et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Ne me quitte pas de Jacques Brel pour terminer cette émission en compagnie de Marianne James qui était l'invitée de Musique et moi ce matin. Un grand merci à Philippe Mercher qui était à la prise de son. C'est Sophie Pichon qui réalise cette émission assistée de Marie Ferdinand. On se retrouve la semaine prochaine à 11h. Je vous souhaite une très belle semaine à l'écoute de France Musique. À dimanche.
France Musique.